Bonjour et bienvenue dans Cœur d'Arty Coach, le podcast où nous parlons des relations amoureuses. L'amour n'a pas besoin d'être parfait, seulement d'être vrai. Je vous livre des outils, des réflexions et des clés de compréhension pour y parvenir. Que vous soyez célibataire ou en couple, si vous souhaitez avoir une vie affective épanouie, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Cœur d'Arty Coach où aujourd'hui nous allons de nouveau parler de conflits insolubles. J'ai eu l'occasion d'évoquer ces fameux conflits insolubles dans l'épisode 79 sur la charge mentale, en parlant plus particulièrement des tâches ménagères, puis dans l'épisode 82 concernant la sexualité. Dans une relation amoureuse, il existe 6 sources de sujets de conflits insolubles. Chacun de ces sujets va faire l'objet d'un épisode de podcast à part entière, et dans l'épisode du jour, je vais aborder les relations avec la belle famille. Pour l'anecdote, ce sujet était sur ma liste depuis un moment déjà, et comme j'ai reçu un message à ce propos, j'ai eu envie de sortir cet épisode plus rapidement que prévu. En l'occurrence, la personne qui m'a contactée me demandait « Est-ce que la famille de l'autre peut être une incompatibilité amoureuse ?» Ce à quoi j'ai répondu que ce n'en était pas forcément une, par contre, il s'agit d'une source de conflit potentiel qui, elle, va être insoluble. Dans cet épisode, je vais donc vous parler d'une source de conflit insoluble, la belle famille. Cette source de conflit, elle s'étend aussi au rapport avec nos ex-partenaires, notamment dans le cadre de familles recomposées. Je vais donc aborder ces deux facettes-là, puis évidemment, qu'est-ce qui peut nous amener à penser qu'on fait face à une incompatibilité relationnelle, et enfin, comment est-ce qu'on peut gérer cette source de conflit avec beaucoup de grâce. Tout d'abord, premier appel. Contrairement à ce que beaucoup de personnes croient, le couple n'est pas là pour nous rendre heureux en permanence. C'est un espace qui vient générer des conflits et des incompréhensions. C'est ensuite la façon dont on gère ces conflits et incompréhensions qui va nous rendre heureux ou malheureux. C'est tout à fait sain et normal d'avoir des conflits dans un couple. Parmi ces derniers, il a ainsi été observé que les couples sont confrontés à 6 sources de conflits identiques. Certains sont circonstanciels, tandis que d'autres vont persister. On parle de conflits insolubles lorsque les sources de conflits viennent titiller nos valeurs personnelles. Et en général, cela devient un gros conflit lorsque cela met en lumière des différences de valeurs dans le couple. C'est d'ailleurs pour cela que vous avez sûrement déjà entendu que dans un couple, il faut partager les mêmes valeurs. Et c'est tout à fait vrai. Néanmoins, il n'est absolument pas possible d'être raccord sur tous les sujets. Sauf peut-être pendant l'état amoureux. Et je vous invite à écouter l'épisode 2 de ce podcast si vous n'êtes pas familier ou familière avec cette notion. Ce qui est particulier en fait avec la notion de valeur est que, pour une même valeur, on n'a pas forcément la même définition. Et on n'a pas la même façon d'incarner la valeur en question. Il est donc possible qu'on emploie des mots identiques pour exprimer des choses différentes. Un conflit insoluble dans le couple se réfère à une divergence d'opinion, de valeur ou de besoin entre les partenaires qui vont résister aux tentatives de résolution ou de compromis. Face à un conflit insoluble, il va être important de trouver un terrain d'entente à double gagnant. C'est ce qu'on appelle faire des compromis, puisque finalement, dans une relation, il ne peut y avoir que deux gagnants ou deux perdants. Et contrairement aux conflits les plus courants qui peuvent être discutés, négociés et résolus avec le temps, un conflit insoluble persiste, souvent malgré les efforts conjoints des partenaires pour le résoudre. Ces types de conflits peuvent être liés à des différences profondes dans la personnalité, dans les valeurs fondamentales, dans les attentes ou même des expériences passées. Et il me semble important d'ajouter aussi que l'objectif en reconnaissant un conflit comme insoluble n'est pas nécessairement de le résoudre, mais plutôt de développer des stratégies pour le gérer de manière saine et constructive. On essaye chacun et chacune de s'y retrouver au maximum et d'être le moins insatisfait possible. Face au sujet de conflits insolubles, je pense que c'est important que vous ayez aussi conscience qu'il va peut-être être nécessaire de faire un deuil. Notamment faire un deuil du couple idéal qui parvient à être tout le temps d'accord l'un avec l'autre. Ce n'est pas possible. Évidemment que ce serait merveilleux que tout soit toujours fluide, naturel, zéro friction, etc. Mais ce n'est pas possible. C'est d'ailleurs l'un des problèmes majeurs que l'on rencontre avec les conflits lors de la lutte de pouvoir, troisième étape du voyage du couple. On cherche à imposer ce que l'autre devrait faire ou penser. On ne laisse pas le choix à l'autre quand bien même on sait qu'il ou elle se sent perdant. Comme je le mentionnais, il y a des conflits insolubles car des différences de valeurs se heurtent. On peut donc se questionner et se demander si l'écart est grand au point d'envisager la rupture. Puisque effectivement, si aucune des deux personnes ne veut rien lâcher, il va être compliqué d'avancer ensemble. C'est dans ce cas de figure-là où on devient un couple fantôme, de vie parallèle, on limite les interactions pour limiter les conflits. On peut aussi rester dans la relation mais continuer de s'agresser. Ou alors, une des deux personnes s'écrase avec comme contrepartie l'éloignement progressif. Ce n'est évidemment pas ce que je vous souhaite, d'où la sortie de cet épisode de podcast et les autres concernant les conflits insolubles. Mais aussi, comprenez bien que des valeurs peuvent être différentes sans pour autant que cela n'implique une séparation. Heureusement pour nous, on peut faire preuve d'ouverture envers les différences d'opinion et de valeurs pour trouver des compromis. En ce qui concerne les relations avec les belles familles, les psychologues considèrent fréquemment que ce sont l'ennemi extérieur numéro un du couple, en particulier lorsque ces familles sont ancrées dans l'entourage immédiat de l'un des partenaires. Il y a souvent un décalage significatif lorsque l'un des partenaires aspire à entretenir des relations étroites avec les deux belles familles, tandis que l'autre préférerait vivre de manière plus indépendante. La caricature que l'on voit dans les médias pour un couple hétéro se dessine autour de belles mamans qui souhaitent enseigner à sa belle-fille comment prendre soin de son fils et de ses petits-enfants. Le fils, pris entre sa mère et sa partenaire, se retrouve souvent dans une position délicate, tentant d'équilibrer les attentes et les désirs des deux femmes essentielles dans sa vie. Cette dynamique peut devenir une source majeure de tension. Les différences de valeurs, d'attentes et de perception du rôle de la belle-famille peuvent créer des conflits insolubles qui, si mal gérés, peuvent s'infiltrer et affecter la stabilité du couple. Il y a ainsi une question fondamentale qui émerge souvent. Jusqu'où devrait s'étendre l'influence de la belle-famille dans la vie du couple ? La gestion des relations avec la belle-famille nécessite souvent une dose de diplomatie. Déjà, s'il y a un partenaire qui n'a pas envie de passer du temps avec sa belle-famille, il y a un angle que l'on peut prendre, celui d'être dans le don pour son ou sa partenaire. Quoi qu'il arrive, on ne peut pas avoir que du plaisir dans la relation. Et si on s'arrête juste à notre désagrément personnel, on ne vient pas se connecter à l'autre. Ça nécessite donc d'aller un peu plus loin. Une relation, c'est recevoir, mais c'est aussi donner. À trop rechercher le plaisir immédiat, on perd une perspective nécessaire dans la relation de couple, on perd de la connexion et de la générosité envers l'autre. Après, ce n'est pas forcément qu'une question d'envie le problème. Parfois, les rapports avec les uns et les autres sont source de friction. La mission pour le couple dans ce cas-là va être d'établir un sentiment de solidarité dans le couple. Cela va sembler assez brutal pour les personnes qui ont tendance à éviter les conflits, mais il est très important de ne pas tolérer des signes de mépris ou de condescendance envers notre partenaire. Notre partenaire est la personne que nous avons choisie, et c'est important de former une équipe. Des proches qui vous aiment ne vont pas disparaître de votre vie parce que vous refusez de les entendre mal parler de votre partenaire. Votre couple, c'est d'une certaine façon une nouvelle famille que vous avez choisie. Bien sûr qu'ils peuvent vous exprimer leur opinion sur votre partenaire, mais l'avez-vous sollicité ? Et je précise par contre que c'est valable pour une relation saine. Dans le cadre d'une relation toxique, évidemment que nos proches ont tout intérêt à nous dire que ce n'est pas normal d'être insulté, battu, humilié ou autre. Alors comment est-ce que cela peut se manifester, le fait d'être solidaire avec l'autre ? Cela pourrait être en disant des choses comme « Ma partenaire est la mère de notre enfant, elle sait mieux que quiconque ce qui est bon pour lui. » Nous discutons régulièrement de nos finances et de nos choix budgétaires, nous n'avons pas besoin de votre aide, mais merci de la proposer. Nous avons mis en place cette disposition chez nous par rapport à ce qui fonctionne le mieux pour nous en tant que couple. Ce sont évidemment juste des exemples de situations où les parents peuvent donner leur avis sur l'éducation des enfants, le rangement du foyer ou encore la gestion budgétaire. Chaque cas est évidemment unique. Dans cette même thématique, on retrouve aussi le rapport qu'on entretient avec les ex-partenaires. J'évoquais les familles recomposées précédemment parce que parfois, on n'a pas le choix que d'être en contact avec ses ex. Quand on a des enfants d'une précédente union, on fait souvent au mieux pour que chacun et chacune s'y retrouve. Après, les questions comme « Est-ce qu'il faut rester en contact avec ses ex ou non ?» Est-ce que c'est bien de rester ami avec un ex ? Ce sont des questions auxquelles on va toutes et tous avoir nos propres avis sur la question. On peut avoir des divergences d'opinion sur le sujet, sans que ce ne soit une incompatibilité amoureuse. Ce qu'on peut venir par contre observer, c'est ce qui se déclenche en nous vis-à-vis de la situation. Est-ce qu'on se sent en insécurité affective dans la relation ? Est-ce que les ex prennent trop de place selon nous ? Et si cela représente un obstacle, lequel ? Des fois, on peut être fâché quand on a le sentiment que notre partenaire ne fait pas ce qu'il faut pour que la présence des ex n'empiète pas sur la relation. C'est la même chose avec la belle famille. On a une vision de comment il faudrait vivre à deux et en harmonie face aux personnes qui gravitent dans notre vie. On n'a pas toutes et tous la même façon de voir les choses et c'est là où il va y avoir de la friction. Mais aussi, une chose qui me semble importante à dire est qu'on ne peut pas reprocher à son ou sa partenaire des actions qui ne lui appartiennent pas. Par exemple, son ex refuse de signer les papiers du divorce. Notre partenaire peut mettre des coups de pression, discuter, insister, etc. Au bout du compte, il ou elle n'a pas le pouvoir de signer à la place de l'autre. Donc, de notre référentiel, on pourrait avoir le sentiment que notre partenaire ne fait pas ce qu'il faut pour mettre en ordre la situation. Alors qu'en fait, peut-être que notre partenaire est juste à court d'idées sur comment faire en sorte que ce soit clôturé. Quand les relations avec les ex-partenaires sont source de conflits, on peut venir rassurer l'autre en apportant une réponse adéquate face à ce qui génère de l'anxiété chez notre partenaire. De la même façon qu'avec la belle famille, il convient de faire équipe avec son ou sa partenaire. On ne laisse pas passer des propos désobligeants envers la personne que l'on aime. On peut être clair avec les limites à ne pas franchir. La particularité des sujets de conflit insolubles, c'est qu'on n'est pas nécessairement amené à les vivre. Il y a certaines personnes qui n'ont aucun souci avec les ex ou la belle famille, et tant mieux. Souvent, c'est quelque chose qui devient compliqué lorsqu'on se sent seul dans des situations où on aimerait être soutenu. On ne choisit pas les bagages de notre partenaire. Quand on relationne avec quelqu'un, on n'a pas d'autre choix que de récupérer le package complet. On peut donc choisir notre degré d'inconfort et nos contraintes. Là où vraiment j'ai envie d'insister, c'est sur le fait de ne pas reprocher les actions d'autrui à son ou sa partenaire. On peut formuler des demandes claires de solidarité ou de soutien, mais on ne peut pas forcer son ou sa partenaire à obtenir un résultat qui ne dépend pas que de lui ou d'elle. J'espère que mes propos étaient suffisamment clairs et que cet épisode vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à noter le podcast ou à le partager, cela m'aide beaucoup. Si vous avez une question ou une thématique que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à m'écrire, les informations pour me contacter sont dans la description. Je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Prenez soin de vous.